Certains d'entre nous ont eu l'occasion de visiter donc une grotte cet après-midi, et vous avez certainement entendu parler de très généreusement de millions d'années, des millions d'années, des millions d'années. Voilà. Et juste une remarque que j'ai pu parler un petit peu avec le guide. Il dit, vous savez, moi-même j'ai une formation scientifique, et quand on fait voler un Airbus, par exemple, on mesure le temps de vol, on mesure la distance de vol, on connaît la vitesse exacte, ou même la vitesse instantanée, mais on mesure, on observe ces choses. Je lui dis, bien, en ce qui concerne les millions d'années, on n'a pas observé les millions d'années, on n'était pas là pour le faire. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce musée de la création qui existe aux États-Unis, que ce frère en Christ, Ken Ham, qui vient d'Australie, qui a été à l'idée de démarrer ce musée de la création. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous le présenter, parce que j'ai pris des milliers de photos à l'intérieur, et je suis en train de m'adapter pour faire une visite guidée en français, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur place. Mais Ken Ham a constamment cette question à poser aux gens qui parlent de millions d'années, en anglais, « Were you there ?» Est-ce que vous étiez là pour photographier pour compter le nombre d'années? La réponse, bien sûr, c'est non. Et je disais à ce jeune homme, vous savez, la rigueur scientifique veut que, puisqu'on n'était pas là, puisqu'il n'y avait personne pour prendre des photos, pour filmer, il y a tant de millions d'années, la rigueur scientifique voudrait que l'on dise très clairement, nous pensons que peut-être, il y a tant de millions d'années, voilà ce qui s'est passé. Mais nous ne savons pas parce que nous n'étions pas là. Je vous dis, quand on ne dit pas cela, ça a un parfum de malhonnêteté, de manque de rigueur scientifique. La rigueur scientifique, c'est on a observé, on a noté, on a photographié, etc. On a retesté, etc. Mais avec les millions d'années, on ne peut pas observer, on ne peut pas tester à nouveau. On ne fait que des hypothèses. Donc c'est une petite chose assez importante à avoir en tête quand on entend parler de millions d'années. Je vais revenir à l'histoire de la chrétienté. Et nous étions arrêtés à la deuxième session sur cette image qui est tirée des chroniques du Moyen-Âge et qui rappelle toutes les persécutions que beaucoup de gens ont subies, et notamment des gens chrétiens qui n'étaient pas d'accord avec l'Église catholique romaine, qui rejetaient un certain nombre et beaucoup d'ajouts non scripturaires. Et je vous avais montré donc ces versets de la parole de Dieu en Galates chapitre 6 qui montrent le fossé qu'il y a entre la parole de Dieu et la vie de tous les jours au Moyen-Âge, ou avec ce verset, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, dans l'épître philippien, ou encore en 2 Timothée 4, 2, où il nous est dit de prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non, même de reprendre, de censurer, mais avec toute douceur, pas seulement avec douceur, mais avec toute douceur. Donc le fossé qu'il y a entre la parole de Dieu et ceci est absolument énorme. Donc ça conclut notre deuxième partie, nous allons avancer en vous disant par exemple, au terme à la sortie du Moyen-Âge, quel était le regard de l'Église catholique sur la chrétienté, sur tout ce qui s'était passé depuis le début de la chrétienté. Eh bien c'est simple. L'Église catholique, le catholicisme, se voyait comme les successeurs des apôtres au travers des pères de l'Église et, bien sûr, dans la ligne droite de la saine doctrine. C'est pour ça que la couleur est jaune ici, assez peu tachée. Par contre, à cause du schisme en 1054 avec l'Église d'Orient, donc l'Église orthodoxe, les couleurs vues par les catholiques sont pas très bonnes, surtout à cette époque, hein, les orthodoxes étaient vraiment les vilains, les méchants. Quant à tous ces groupes dissidents que le catholicisme romain a persécutés à mort, eh bien c'est simple, sont tous des hérétiques. Ça c'est la vision de l'Église catholique au sortir du Moyen-Âge sur la chrétienté de l'époque. Maintenant, si on regarde quelle était la vision de l'Église orthodoxe en Russie notamment, ou dans la Grèce, dans l'Orient, disons, hein, sur la chrétienté depuis le début, eh bien, c'est simple. L'église orthodoxe grecque ou russe, enfin d'Orient, se voyait comme les successeurs des pères de l'église, ceux qui étaient orthodoxes, ceux qui avaient la sainte doctrine. Ils n'étaient pas contents des catholiques à cause, bien sûr, du schisme en 1054 ici. Et quant à, aux dissidents ici, eh bien pour eux, ben, c'est aussi tous des hérétiques. Sur ce point, ils étaient d'accord. Église d'Occident, Église d'Orient. Voilà la situation donc. Par contre, tous ces défenseurs ici, comme vous l'avez compris, des Écritures, avec leurs défauts, et quelques défauts qui peuvent, erreurs qui peuvent être les leurs, et je ne dis pas ça pour dire que c'est tout à fait négligeable, mais c'est certainement négligeable par rapport aux persécutions et aux meurtres et aux tortures perpétrées par le pouvoir romain avec l'Église catholique romaine et aussi le pouvoir qui avait associé à l'Église d'Orient. Eh bien, c'est leurs erreurs ici sont certainement négligeables. Et ils étaient des défenseurs en fait de la foi biblique. Et qu'est-ce qu'ils défendaient? Ils dénonçaient les pratiques non scripturaires, ceux qui s'écartaient de la parole de Dieu. Ils étaient aussi qualifiés d'anabaptistes, donc de rebaptiseurs, appelés ainsi par le catholicisme et par l'orthodoxie. Ils étaient déclarés hérétiques par rapport à la doctrine de ces deux grandes églises, le catholicisme et l'orthodoxie. Et ils ont été tués avec leurs écrits et leurs Bibles. C'est ainsi que j'avais cité donc les cathares à propos du musée de Vazamé, le musée du catharisme à Vazamé. Tous leurs documents ont été brûlés, ont été détruits, pour qu'il ne reste aucune trace possible. Grâce à Dieu, on a retrouvé quelques petites traces, et on a retrouvé surtout tous les documents des rapports des inquisiteurs, qui nous renseignent beaucoup sur eux, mais ce que l'on voit, c'est que ces défenseurs de la foi biblique ont été tués avec leurs écrits, et bien sûr, on a éliminé leurs témoignages de l'histoire. Pourtant, ils défendaient l'autorité de la parole de Dieu. Au Moyen-Âge, ça devient très très clair. Le baptême de croyants, pas le baptême d'incroyants, mais le baptême de croyants. Pour eux, il s'agissait d'entendre l'évangile, comme il est dit dans Éphésiens 1, versets 13 et 14, entendre l'évangile de salut, le recevoir pour être sauvé, et ensuite être baptisé. Et donc le baptême est un baptême de croyance, ce qu'il défendait. Il défendait aussi l'indépendance des églises, des églises libres et indépendantes de tout pouvoir, de toute autorité au-dessus d'elles, hormis bien sûr la personne du Seigneur Jésus lui-même. Et la séparation des églises avec l'État, selon le principe « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Voilà. Il défendait aussi une vie de sainteté, une marche de droiture avec le Seigneur Jésus et selon, et poussé par le Saint-Esprit, guidé, conduit par le Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Liberté de conscience, chacun étant libre, Dieu nous a créés libres de croire à ce que l'on veut, bien sûr, pas de choisir les conséquences de nos actes. Il défendait aussi une discipline, ça va avec la sainteté, mais une discipline, à savoir de reprendre les pécheurs au sein des assemblées pour les amener à se repentir, à changer d'attitude et à honorer le Seigneur, leur Seigneur et leur Sauveur au sein de l'assemblée. Et ils étaient, dans l'ensemble, prémillénaristes, comme la plupart des baptistes aujourd'hui. Alors ça, c'est le Moyen-Âge, cette période ténébreuse, la deuxième période que nous avons examinée ensemble, et nous arrivons donc au terme de cette période, et nous allons, en nous souvenant que le Seigneur nous fait savoir par l'apôtre Paul que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, nous examinons maintenant au démarrage de la Renaissance. Et lorsque nous entrons dans cette période qui va voir le protestantisme se développer, nous voyons une carte d'Europe ici, vers 1480, donc c'est juste avant Martin Luther, Jean Calvin, Guillaume Farel, Zwingli et d'autres réformateurs. voyez ici le royaume de France, l'empire germanique, le royaume de Castille, d'Aragon ici. Tout ça, c'est que ça appartient à l'empire ottoman et donc c'est musulman. C'est l'islam qui s'est placé ici. C'est une carte un petit peu compliquée, on ne peut pas détailler tout, mais vous voyez les différents royaumes et empires qui existent. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est par rapport à la fin de la période d'apostasie, juste au début du Moyen-Âge, ici, tout ça, c'était chrétien, maintenant, ça n'est plus, c'est musulman, bien sûr. Et ici aussi, c'était chrétien, et là, c'est l'Empire ottoman. Voilà les grandes villes d'Europe vers 1480. Vous vous souvenez peut-être de la carte que je vous ai montrée vers l'an 500, où la population était majoritairement ici. Et maintenant, les choses sont assez claires. Il y a une concentration énorme en Italie, autour de Florence, Venise, Milan, Gênes. C'est de là qu'est partie la Renaissance italienne. Et à conduit, enfin, c'est étendu à toute l'Europe. Ça a touché l'Espagne. À l'Espagne, d'ailleurs, à cette époque, il y avait beaucoup de Juifs, énormément de Juifs, qui étaient dans toutes ces grandes villes et qui faisaient beaucoup la richesse de l'Espagne. Alors, il y a Londres, les environs de Liège, ici, Rouen, Paris, Cologne. Toutes ces régions d'Europe ont cru énormément, avec Milan, bien sûr, qui était un centre extrêmement important, au moment du démarrage de la Renaissance. En ce qui concerne l'Orient, Istanbul a pris beaucoup d'importance, le Caire est demeuré important, mais Antioche a disparu, par exemple, et il y a d'autres villes qui apparaissent dans l'échiquier politique au niveau des villes d'Europe. Donc un changement important depuis le début du Moyen-Âge à l'orée de cette période qui a vu le protestantisme s'installer. Alors voilà, cette Renaissance qui a été une période vraiment trouble, donc il va grosso modo de 1500 à 1800, dans mon analyse de l'histoire de l'Église, de la chrétienté plus exactement. Et nous allons voir quelques personnages pour commencer. Il y a eu des précurseurs à la réforme protestante. Par exemple, je vais en citer juste quelques-uns, je ne vais pas en citer beaucoup. John Wycliffe en Angleterre, qui a mis à la disposition de la Grande-Bretagne, de toutes les personnes, la Bible en langue vulgaire, langue parlée tous les jours. Parce qu'à l'époque aussi, en Angleterre, on utilisait la Vulgate. Jean Hus en Bohême, qui est quelqu'un qui a prêché la parole de Dieu, qui a voulu faire revenir le catholicisme à la parole de Dieu, et comme vous savez certainement, qui a été tué sur un bûcher, qui a été brûlé, à cause de son attaque frontale par rapport aux doctrines catholiques. Savonarole, un prêtre italien de Florence, aussi, a prêché la droiture, une vie de droiture, d'honnêteté, de sainteté. Parmi les prélats italiens qui étaient corrompus et qui vivaient dans la débauche la plus totale, et lui aussi, il a eu beaucoup de succès pendant quelques semaines, quelques mois, et ensuite on s'est débarrassé de lui en le brûlant. C'est l'époque où Gutenberg, pour l'Europe en tout cas, puisque vous savez qu'en Chine l'imprimerie existait plus longtemps, Gutenberg a inventé l'imprimerie, et à partir de Gutenberg, les écritures qui jusque-là, pour toutes ces personnes, étaient recopiées à la main, ont commencé à être imprimées. Et vous savez que le premier livre qui a été imprimé, c'est la Bible en latin, la Vulgate. Au passage, je saisis l'occasion pour vous demander, est-ce que vous êtes des lecteurs ? Est-ce que vous lisez des livres ? Et est-ce que vous savez quels sont, est-ce que vous suivez un petit peu chaque année les best-sellers ? Un petit peu, de temps en temps, voilà. Et il y a beaucoup de best-sellers dans le monde, surtout dans le monde occidental et anglo-saxon, des best-sellers donc, qui sont souvent, très souvent aussi traduits de l'anglais au français. Et on a chaque année des listes de best-sellers qui sont publiées. Donc c'est les meilleures ventes dans le monde. Hein. Est-ce que, je ne sais pas si vous savez, mais depuis 2000 ans, le best-seller dans le monde, c'est toujours le même livre. Le plus imprimé, le plus vendu, le plus lu, c'est toujours la Bible. Mais étonnamment, tous ceux qui font paraître des listes de best-sellers n'indiquent jamais la Bible. Peut-être diraient-ils, si on leur posait la question, mais c'est évident. Et seulement, ça n'est jamais mentionné. Et pourtant, c'est toujours le premier livre. Et avec l'imprimerie, l'avènement de l'imprimerie sous Gutenberg, ça a été la même chose. C'est la Bible qui a toujours été le plus imprimée. En France, il y a eu quelqu'un qui s'appelle Lefèvre d'Étaples, ici, qui est un catholique, un prêtre catholique, qui a enseigné à Meaux d'autres prêtres, et qui a fait un retour à la parole de Dieu, aux évangiles. Et il a enseigné beaucoup de prêtres dans les évangiles. Mais tristement, il n'a jamais eu le courage de sortir du catholicisme. Il est toujours resté dans le catholicisme. Mais c'est un précurseur de la réforme protestante en France, tout en demeurant dans le catholicisme. C'est l'époque où les anabaptistes, un petit peu dans la continuité de ses prédécesseurs européens, sont apparus, et en même temps que la réforme a démarré. Tout cela s'est passé au même moment, et s'est passé assez doucement, lentement. Comme je vous ai dit, les protestants qui ont démarré ces églises protestantes, en fait, sont des catholiques insatisfaits qui n'arrivaient pas à réformer le catholicisme de l'intérieur ou qui voyaient que c'est absolument impossible et donc ils se sont extraits du catholicisme et ont démarré leur propre mouvement, les églises protestantes. Je vous avais expliqué, protestants ici et anabaptistes, travaillant ensemble, étudiant la parole de Dieu ensemble, se réunissant au tout début, se sont trouvés en désaccord sur un certain nombre de choses. Pourquoi ? Parce que les protestants ont gardé des éléments du catholicisme, notamment le baptême des bébés, des enfants. Ils ont gardé une forme d'eucharistie, de hiérarchie, pardon ? Et des liaisons avec les liens avec l'État, parce qu'ils voulaient former une religion d'État. On peut comprendre un petit peu ça, même si ce n'est pas fidèle à la parole de Dieu, on peut comprendre que pour résister au catholicisme romain ici, derrière lequel il y avait des armées extrêmement puissantes, les armées des rois hein, en Europe, sans armée c'était quasiment impossible. Ceux-là ont été constamment exterminés, mais leur témoignage demeure jusqu'à aujourd'hui, même s'il a été éradiqué. Et là, au niveau du protestantisme, on a choisi de s'allier à l'État, et d'avoir des armées pour résister face au catholicisme. Et bien sûr, et les anabaptistes, ne voulant pas cela, voulant suivre la fidélité à la parole de Dieu, sola scriptura, en pratique, non pas en théorie, mais en pratique, et bien, comme je vous l'ai expliqué, ces réformateurs, Martin Luther, Ulrich Zwingli, Guillaume Farel, Jean Calvin, ont tous été persécutés, mais sont devenus aussi des persécuteurs des anabaptistes. Et quand je dis persécuteurs, ils ont tué, ils ont noyé, ils ont brûlé des anabaptistes. Et bien sûr, les proportions sont tout à fait différentes de ce que le catholicisme romain ou l'orthodoxie ont fait au cours des siècles, mais un meurtre est toujours un meurtre. Et quelquefois, nous entendons, si vous lisez des ouvrages d'inspiration protestante, j'en lis de temps en temps, et je vois souvent des remarques, on nous dit qu'effectivement, les protestants ont ici persécuté les anabaptistes, mais il faut comprendre qu'est-ce qui se passait à cette époque, la violence qu'il y avait à cette époque. Quand j'ai l'occasion de parler avec quelqu'un qui me dit ça, je leur dis, mais oui, je comprends très bien la violence de l'époque, c'était une période extrêmement violente. Mais la période des apôtres, la période apostolique avec Jésus, est une période extrêmement violente aussi. Les Romains crucifiés à tour de bras, pour faire les exemples et pour garder, tenir la population dans l'obéissance et dans la terreur. Et néanmoins, les apôtres n'ont pas persécuté. Et Jésus n'a pas persécuté. Si bien que l'argument qui consiste à dire « Mais regardez l'époque, c'est normal qu'on persécute », n'est absolument pas biblique. Il est absolument irrecevable. Dieu ne recevra jamais un tel argument. Donc, à la suite de Jean-Baptiste, nous arrivons vers les années 1630-1620, les mouvements, les baptistes, en petit nombre, commencent à apparaître, notamment en Angleterre, et puis ensuite, à la faveur de ceux qui sont partis vers le Nouveau Monde, des puritains, des séparatistes qui sont partis vers le Nouveau Monde, et les difficultés qu'il y a eu là-bas, un certain nombre de personnes se sont séparées de l'église anglicane qui avait été établie dans le Nouveau Monde pour fonder des églises baptistes et qui ont été aussi persécutées, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis. 1800, on arrive à la limite ici, c'est les années que là on va s'arrêter pour la Renaissance troublée. Alors pendant cette période ici de Renaissance troublée, l'apparition du protestantisme, des Jean-Baptistes et des baptistes, quelles sont les doctrines catholiques non scripturaires qui ont continué à être ajoutées? Que ses prédécesseurs, auxquels ses prédécesseurs ont dû faire face et prendre position contre ces choses. Quelles sont-elles? En 1414, c'est avant la Réforme, avant Luther, la coupe du Seigneur était interdite au peuple, le fruit de la vigne. C'est-à-dire que les catholiques, quand, à partir de 1414, quand ils faisaient ce que nous appelons la scène, ce que eux appellent l'Eucharistie, dans la messe, à partir de 1414, ils n'avaient plus le droit d'avoir part à la coupe. Avant, ils pouvaient. Et puis après, ils ne peuvent plus. Alors que le Seigneur a dit, buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, ou de la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous, commandement du Seigneur. Si vous rencontrez des catholiques, vous pouvez gentiment leur faire remarquer ou leur demander, mais est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu, au commandement de Jésus? En général, les gens sont disposés à dire oui, bien sûr. Et vous pouvez leur demander, mais est-ce que vous buvez la coupe? Comme quand Jésus a institué le dernier repas, il a dit, prenez ceci, mangez, ceci est mon corps. Hein. Et après, il a dit, buvez-en tous. Pourquoi est-ce que vous n'en buvez pas? À qui est-ce que vous vous soumettez? À Jésus, à sa parole, ou à des hommes? Il y a des façons de poser les choses, mais les questions, et c'est une idée pour faire réfléchir les catholiques que vous pouvez rencontrer au jour le jour. Donc, 1414, interdiction au peuple catholique de participer dans l'Eucharistie et de prendre la coupe du Seigneur. 1439, le don du purgatoire, qui avait déjà été pré-introduit, est là placé sous forme de dogme, enfin présenté sous forme de dogme. 1439, c'est aussi le dogme des sept sacrements. Les sacrements avaient déjà été introduits, mais là, ça devient un dogme à partir de ce moment-là. 1508, bon, on avait un aria qui a été introduit. 1517, c'est le début de la réforme protestante. Quand la réforme protestante a démarré, ces choses et tout ce qui précède que je vous ai montré avaient déjà été introduits. 1534, création de l'ordre des jésuites. L'ordre des jésuites a été créé par Ignace de Loyola, qui est un basque espagnol, donc pas très loin de là où nous habitons. C'est un militaire qui a étudié avec un homme à la Sorbonne d'ailleurs, avec Jean Calvin. Ils étaient étudiants tous les deux, mais ils ont suivi deux directions très très différentes, en fait opposées. Et l'ordre des jésuites est un ordre militaire. Le chef des jésuites s'appelle le général des jésuites. C'est un ordre militaire qui a été créé pour s'opposer au protestantisme, pour saper le protestantisme ou le détruire. Les jésuites ont mis leurs mains essentiellement dans tous les organes d'enseignement dans le monde entier. On les trouve essentiellement dans les universités. Et ils sont formés à beaucoup de techniques, beaucoup d'enseignements et beaucoup de techniques guerrières. Et si vous lisez par exemple le témoignage de ce prêtre canadien qui s'appelle Shiniki, qui est un homme qui a grandi à Montréal, bercé plutôt, il a grandi sur les genoux de sa maman qui lui lisait la Bible et qui est devenu prêtre parce qu'il voulait servir Dieu. Et quand il a découvert les horreurs et la corruption du catholicisme au Québec, ça c'est dans les années 1800, il s'est trouvé à dénoncer des choses qu'il avait vues et il a été persécuté. Il a été obligé de fuir, il est parti aux États-Unis, dans l'État de l'Illinois, et puis s'est converti en fait. Il a pris un avocat dans l'État de l'Illinois pour le défendre. Il a prévenu cet avocat qui a bien voulu le défendre en disant « Si vous me défendez, vous courez des risques, les jésuites chercheront à vous tuer. » Parce que le catholicisme de l'époque, les évêques, etc., voulaient éliminer Shiniki. Il était devenu un prédicateur de la parole de Dieu extrêmement puissant. Et beaucoup de gens qui étaient dans l'ivrognerie, notamment au Canada, se sont tournés vers Dieu, se sont convertis. Et en ce moment, il y a une stèle, plus de tellement, il y a un buste de Shiniki au Mont-Royal, à Montréal, que moi-même j'ai vu 20 ans avant de me convertir, ou 15 ans avant de me convertir, je ne savais pas qui il était, mais c'est un personnage qui a été très honoré pour tout le bien qu'il a fait pour le Québec en luttant contre l'alcoolisme et en annonçant la parole de Dieu. Et Shiniki, effectivement, a pu avoir cet avocat américain de l'Illinois, et cet avocat a été tué. Et il s'appelle Abraham Lincoln. Il a été tué pendant son mandat présidentiel. Et tout porte à croire que derrière son meurtre, c'est la main des jésuites, comme avait dit Shiniki. C'est des gens qui sont formés à des techniques extrêmement dangereuses, pernicieuses, et sont toujours avec beaucoup de sourires et très gentils. Se trouve qu'en ce moment, nous avons un pape qui est... les catholiques ont un pape qui est un jésuite. Depuis que l'ordre des jésuites a été créé, le général des jésuites, le chef des jésuites, est appelé, surnommé le pape noir. Et dans les milieux informés, on sait qu'il y a deux têtes à l'Église catholique romaine. Il y a le pape officiel et le pape noir. Aujourd'hui, ça semble être la même personne. 1545, en réaction à la réforme protestante, et pour justifier un certain nombre de pratiques catholiques, quelqu'un me posait la question sur les apocryphes. Eh bien, en 1445, on a déclaré la tradition égale à la Bible, au Concile de Trente, et aussi on a introduit les apocryphes pour justifier des pratiques qui étaient non scripturaires. Mais là, ça permet, en disant cela, de sa plus haute autorité, le pape de l'époque a dit, ben, je déclare que toutes les traditions que nous avons créées, ben, c'est aussi merveilleux, aussi sage, aussi superbe que la parole de Dieu, c'est inspiré. Et 1546, les apocryphes sont ajoutés à la Bible. 1560, il y a un credo. On saute un petit peu dans le temps et on arrive en 1854 où le pape Pie IX a proclamé l'Immaculée Conception. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qu'est l'Immaculée Conception. Beaucoup de personnes ont une compréhension erronée de ce que c'est. L'explication est ici. C'est une bulle du pape, une bulle papale, sur l'Immaculée Conception qui dit « Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine, du haut de notre chair, de notre trône au Vatican, que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, a été par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, Marie a été préservée intacte de toute souillure du péché originel. C'est-à-dire qu'elle est née sans péché. Est une doctrine révélée de Dieu, on ne sait pas où, c'est pas écrit. mais révélé de Dieu, soi-disant, et qui ainsi doit être cru fermement et constamment par tous les fidèles. Avant 1854, c'était pas vrai. C'est marrant, hein, ça. Hein. Puis tout d'un coup, ça devient vrai. C'est quand même étonnant, hein. Donc avant 1854, on pouvait croire à autre chose, et puis à partir de là, il faut croire à quelque chose de nouveau. Et bien sûr, ça n'a aucune source scripturaire, mais en plus de cela, c'est en train, elle déclare, hein, cette bulle papale déclare que, en fait, comme Jésus, Marie serait née sans péché. Et vous savez, vous connaissez ce passage de Luc 2, le cantique de Marie elle-même, hein, cette même personne, si on l'interrogerait, Marie, on lui dirait, mais qu'est-ce que tu penses de tout cela? Et elle-même, elle a dit, dans son cantique, Luc 1, pardon, j'ai dit Luc 2, elle dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Ah ben tiens, elle a besoin d'un sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle parle de sa propre bassesse. Humblement. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Donc, elle dit clairement qu'elle a besoin d'un sauveur. Dieu est son sauveur. Et que Dieu a jeté les yeux sur sa bassesse. Ce qui est tout à fait synonyme de reconnaître qu'on est pêcheur, pêcheresse en l'occurrence. Mais le pape Pie IX n'a pas eu de scrupule à déclarer, bien sûr, l'immaculée conception de Marie. Cette Marie est Dieu, finalement. Et on attend une proclamation qui est quasiment courante maintenant dans le catholicisme, que Marie est co-rédemptrice avec Jésus-Christ. À partir de mon mari est né sans péché, qui a eu son assomption, ce que prétendent les catholiques, il suffit après de dire que Marie est la co-rédemptrice et qu'il vaut mieux prier Marie que prier s'adresser à Jésus. Alors qu'on sait très bien qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, comme nous dit 1 Timothée 2, verset 4, Jésus-Christ homme. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. En 1864, c'est pas si loin que ça, hein, ça fait un peu plus de 150 ans, ou ça fait 150 ans exactement, la liberté de conscience. Cette liberté de conscience nous a été donnée par Dieu. Nous avons été créés tous libres de penser ce que nous voulons, de croire ce que nous voulons, que l'on soit opprimé ou non. Eh bien, la liberté de conscience, de religion et la séparation entre les églises et l'État, condamnée par le pape Pie IX dans un syllabus. Il condamne la liberté de conscience, la liberté de religion, la séparation avec l'Église, avec l'État, pardon, avec l'État, et il condamne la liberté de presse et le rationalisme scientifique. En d'autres termes, il dit, si je ne mets pas mon sceau d'approbation sur la presse ou sur les sciences, je ne sais pas si vous savez comment on appelait le sceau d'approbation dans les années, juste aux années 70, les livres qui étaient publiés en pas trop grand nombre, ou jusqu'aux années 60 peut-être, le Vatican examinait tous les livres. Et les livres qu'ils trouvaient acceptables, ils mettaient un tampon qui s'appelle l'imprimatur. Et les catholiques, en bon catholique, quand ils achetaient ou voulaient acheter un livre, ils vérifiaient qu'il y a l'imprimatur. Autrement, ils disaient, on ne lit pas. On ne lit pas. Le chef a dit, il ne faut pas lire. On ne lit pas. Il n'y a pas d'imprimatur sur la Bible protestante. On ne lit pas. Donc, ça c'est extrêmement important. Beaucoup de gens, et ça n'a jamais été annulé, ça ne peut pas être annulé. Parole de pape. Liberté de conscience, de religion, de séparation, condamnée par le pape. 1870, quelques années après, c'est la déclaration de l'infaillibilité du pape. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Concile du Vatican dans le Pie IX, le vote pour l'infaillibilité, je crois que c'était à quelques voix près. J'ose pas dire à une voix près, je ne me souviens plus exactement, mais c'est à quelques voix près. Ça veut dire que ce n'est pas la majorité absolue. Son infaillibilité du pape n'a même pas été reconnue par tout le monde. mais ça, beaucoup de gens ne le savent pas. 1930, le pape Pie XI, cette fois-ci, a condamné les écoles publiques. En disant, les écoles publiques, c'est mal, c'est mauvais. Sous-entendu, la seule chose qui est acceptable, c'est les écoles catholiques. 1950, c'est la proclamation de l'Assomption de Marie par le pape Pie XII. C'est-à-dire que Marie se serait élevée dans le ciel, comme Jésus quand il est parti du Mont des Oliviers, la même façon qu'elle serait montée au ciel et disparue comme ça. Ça n'a aucun fondement scripturaire, bien sûr, et c'est parole de pape, parole d'homme, parole de pécheur. Et en 1965, Marie a été proclamée mère de l'Église. Et si vous entendez parler, ou vous allez même à Lourdes, donc près de Pau, vous verrez qu'il y a des statues de Marie un peu partout, puisque c'est un site, on appelle ça un site marial, donc un site catholique, hein, qui donne toute la gloire à Marie. Et vous voyez plein de statues et de peintures, etc., des tableaux avec Marie, avec des étoiles autour de sa tête, exactement comme le drapeau européen. Tout cela, c'est toutes les doctrines catholiques et non scripturaires qui ont été rajoutées depuis, et même dès avant la Réforme, et jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, la parole de Dieu dit... Par exemple, dans l'Ancien Testament, Proverbe 30, versets 5 et 6, « Toute parole de Dieu est éprouvée, est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » Dieu ne dit pas quand ça se passera, mais le jour où Dieu reprend quelqu'un et l'examine et le trouve menteur, nous savons que les choses se passent mal. C'est terrible. Alors voilà la période de renaissance troublée ici, et on va regarder quelques instants ce que croyaient, ce que défendaient les anabaptistes et les baptistes. Dans un premier temps, contre quoi les anabaptistes avaient pris position. Non seulement ils avaient pris position, mais contre quoi ils sont toujours, puisqu'il y a des anabaptistes autour de nous, dans le monde, notamment au travers des Mennonites, des Amish, des Hussites, et puis d'autres groupes. Ils étaient contre le baptême des bébés, de façon claire et nette. Ils étaient contre toute hiérarchie religieuse. Ils étaient contre une église d'État. Et la notion de prêter serment, par exemple dans l'armée, ou dans des postes officiels. Tout ça parce que, se sachant pécheur, ils ne voulaient pas jurer et prêter serment. Et ils étaient contre la transsubstantiation, qui, vous souvenez-vous, avait été introduite au XIIIe siècle, donc quelques siècles avant déjà. Les baptistes étaient et sont aujourd'hui encore contre le baptême des bébés, aussi contre les hiérarchies religieuses, contre les églises d'État et contre la transsubstantiation. Anabaptistes et baptistes, tous les deux, défendent quoi? Ils défendent des églises indépendantes? Tous les deux veulent des églises locales libres, indépendantes de toute autorité, ce qui n'empêche pas de s'associer à d'autres églises, ou plus exactement d'avoir communion fraternelle avec d'autres églises, de faire des choses ensemble de temps en temps. Ils sont pour la séparation des églises et de l'État, tous les deux, pour le baptême par immersion, pour la liberté de conscience, bien sûr, contrairement à l'épopape. Et vous savez très bien que cette prise de position papale contre la liberté de conscience en 1856 n'a jamais été annulée. C'est toujours d'actualité aujourd'hui, mais on n'en parle pas. Les gens ne le savent pas. Beaucoup de catholiques refuseraient cela en y réfléchissant un petit peu. Et bien sûr, les anabaptistes et les baptistes sont pour l'autorité de la Bible, de la parole de Dieu. Je n'hésite pas à dire que, étant pécheurs, comme nous le sommes, il y a dans ce groupe aussi quelques dérives possibles. Anabaptistes et baptistes ont aussi été qualifiés d'anabaptistes ou de rebaptiseurs et moqués sur ce terrain, déclarés aussi bien par les catholiques mais par les, que par les protestants hérétiques, et persécutés. Persécutés en Angleterre jusqu'en 1689. Et aux États-Unis jusqu'à l'indépendance des États-Unis en 1776. Alors il faut que je vous dise quelques petites choses ici. Avant 1689, les anabaptistes et les baptistes étaient tués et brûlés. Et je vous ai évoqué la place où cela se passait, ça s'appelle à Londres Smithfield. C'est là qu'ils étaient, pour la plupart, brûlés. On ne les tolérait pas. En 1689, l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane, a passé un édit qu'on appelle l'édit de tolérance, pour tolérer les anabaptistes et les baptistes. Les baptistes, après, ont été plutôt majoritaires en Angleterre. C'est l'époque de personnes comme John Bunyan, si vous avez entendu parler de John Bunyan, le récit du pèlerin. C'est l'époque de bien d'autres baptistes. Et puis, cet édit de tolérance a duré bien longtemps. Alors, je ne sais pas si vous vous intéressez un petit peu au monde anglo-saxon, mais vous avez peut-être entendu parler de quelqu'un, un prédicateur célèbre anglais, même de Londres, que l'on a surnommé le prince des prédicateurs. Quelqu'un le connaît-il ici? Charles Spurgeon, voilà. Charles Spurgeon était le prince des prédicateurs, disons la deuxième partie du 19e siècle, après 1850. Est-ce que vous savez de quelle église baptiste était-il le pasteur, puisqu'il était pasteur d'une église baptiste? Quelqu'un sait-il? Oui? Pardon? Ouais, le tabernacle métropolitain de Londres. Metropolitan Tabernacle de Londres. C'est intéressant parce que quand on dit ça, on dit que Charles Spurgeon était le pasteur baptiste du tabernacle métropolitain de Londres. C'est bizarre parce qu'on ne dit pas de l'église baptiste du tabernacle ou comme ça. On dit du tabernacle métropolitain. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est simple. Parce que depuis 1689, il y avait en Angleterre un édit de tolérance des baptistes, mais seulement de tolérance, pas de liberté. En 1850-1860, quand Charles Spurgeon a pris la succession de John Dillon au tabernacle métropolitain de Londres, il y avait un interdit par l'Église d'Angleterre, au travers de cet édit de tolérance, un interdit: les baptistes ne pouvaient pas appeler leur lieu de culte église. C'était réservé à la seule Église anglicane. Ils ne pouvaient pas mettre un panneau, même petit, à l'extérieur du bâtiment en disant « ceci est l'église baptiste un tel ». Ils ne pouvaient pas utiliser le mot « église ». C'était propriété réservée à l'église anglicane. C'est pour ça que Charles Spurgeon n'a jamais pu dire qu'il était le pasteur d'une église baptiste et le publier. C'était absolument interdit à cause de cet édit de tolérance. Savez-vous jusqu'à quand a duré ce édit de tolérance? Souvenez-vous, les Anglais sont conservateurs. Non, il a été révoqué, mais en 1911. Ça a pris du temps pour accepter les baptistes, même en Angleterre. Les accepter complètement. Aux États-Unis, c'est jusqu'en 1776 les baptistes ont été persécutés, non pas mis à mort, mais vraiment très sérieusement persécutés, bannis de chez eux, leurs biens confisqués, etc. Mais dans la persécution, les baptistes sont devenus de plus en plus nombreux aux États-Unis, jusqu'à un point où ils ont eu suffisamment de poids pour peser au moment de la signature de la Déclaration d'indépendance et la Constitution américaine, pour dire on veut rajouter un amendement, il faut un nouvel amendement qui garantit la liberté de presse aux États-Unis et qui garantit que le gouvernement américain ne favorisera pas une religion. Et c'est grâce à l'influence des baptistes, qui avaient pris de l'essor, qui avaient démarré beaucoup d'églises au travers de la persécution, beaucoup d'assemblées baptistes, que les États-Unis sont devenus le premier pays au monde de liberté religieuse complète. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les ouvrages de ce français, ce député français qui s'appelle Alexis de Tocqueville, un député de Rouen du temps napoléonien, hein, vers 1830 par là. Il est allé aux États-Unis. Il a passé, je crois, 8 mois aux États-Unis pour observer, donc 1830, hein, c'est pas 1930, c'est 1830, pour observer ce qui se passait aux États-Unis, en Nouveau Monde. Et il est revenu, il a écrit un ouvrage épais comme ça, que pas beaucoup de gens lisent, mais il dit, mais c'est absolument extraordinaire, j'ai jamais vu un pays où on vit sa foi tous les jours de la semaine. Il était habitué au catholicisme français, où on vivait sa foi le dimanche matin entre 10h et midi, et puis après on faisait tout et n'importe quoi, et il arrive aux États-Unis et il voit des gens d'une piété inconnue en France qui vivaient leur foi du lundi matin jusqu'au dimanche soir, enfin jusqu'au lundi matin suivant, constamment. Et il a écrit un livre assez étonnant, il n'a pas toujours tout compris, il a écrit un livre extraordinaire, pardon. Oui, oui. Je vous recommande à la lecture, c'est un petit peu fastidieux, mais si vous aimez des choses assez intéressantes, c'est pour un auteur français, c'est vraiment très très bien. Alors faisons maintenant une comparaison entre l'Église catholique, ou des comparaisons entre l'Église catholique, les Églises protestantes, et les Églises, cette fois-ci, anabaptistes ou baptistes. En ce qui concerne le type d'église, l'Église catholique, c'est une église qui a toujours cherché à être l'église d'État, une église officielle. Même chose pour les églises protestantes, les églises anabaptistes et baptistes étant des églises libres, indépendantes. L'Église catholique centrée sur 7 sacrements et les traditions, l'Église protestante centrée sur 2 sacrements et la Bible, et souvent le calvinisme, donc les ouvrages de l'institution chrétienne de Jean Calvin. Les anabaptistes et les baptistes centrés sur la parole de Dieu et la foi dans la parole de Dieu. Le salut par sacrement imposé pour les catholiques, dans les églises protestantes, d'une façon générale, hier j'évoquais qu'il y a eu des mouvements assez évangéliques dans le protestantisme, mais c'est quand même assez minoritaire, surtout aujourd'hui. C'est d'une façon générale, le salut est par sacrement imposé, et c'est un sacrement de baptême. Ils ont 2 sacrements, comme je le disais, et non pas 7. Et pour les anabaptistes et baptistes, c'est par conversion personnelle, repentance et foi. Le fondement de ces églises, c'est un credo unique pour les catholiques, c'est des confessions de foi, une confession de foi pour chaque grande dénomination protestante, et pour les anabaptistes et baptistes, c'est une confession de foi dans chaque assemblée, qui ne supplante pas la Bible, mais qui est l'expression, l'interprétation par chacune des églises de ce qu'elles comprennent de la parole de Dieu. Et elles ne s'imposent pas les unes aux autres leur confession de foi. Le gouvernement ici, par la hiérarchie papale, avec ses cardinaux, avec ses évêques, avec toute sa hiérarchie, ici c'est une hiérarchie plus réduite, mais ce qu'on appelle une hiérarchie synodale, avec leurs synodes, leurs organisations, alors que les anabaptistes et baptistes ont pris des décisions collégiales. C'est l'assemblée locale qui décide, qui vote elle-même ce qu'elle va faire et comment. La croissance se faisant ici par baptême imposé, et parfois au moyen de l'épée. Au niveau protestant, c'est la même chose, par baptême imposé. Les parents baptisent sans demander l'avis des enfants, même ils n'ont pas la possibilité de comprendre ou de quoi que ce soit, on les baptise. Et pour les anabaptistes et baptistes, c'est une volonté absolue d'amener les personnes à Christ par l'évangélisation, une évangélisation volontaire, non pas obligatoire. Et le fonctionnement est par des droits et des rites catholiques, et là c'est des droits et des rites protestants, droits c'est-à-dire de famille, hein, une famille catholique fait des enfants catholiques, et ainsi de suite, et suivent des rites, et là le fonctionnement pour les anabaptistes et les baptistes, comme vous le savez, c'est la parole de Dieu, ou cela devrait être la parole de Dieu. Souvenez-vous, notre Seigneur a toujours dit, quand on lui a posé des questions, n'est-il pas écrit? N'avez-vous pas lu dans les Écritures? Sans arrêt. Nous montrons ainsi que nous devrions nous-mêmes, chaque fois que nous posons des questions, nous avons des décisions à prendre, nous demander, mais que disent les Écritures? Ah, il est écrit telle chose. Ça devrait guider mes décisions. Voilà la fin de notre chapitre sur la renaissance. En vous rappelant que le Seigneur Jésus a dit à Pierre, tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. C'est un avertissement solennel. Et en 2 Timothée 2, versets 24 et 26, il nous est rappelé qu'il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Et il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. On aurait aimé étudier l'histoire de la chrétienté et constater que les dénominations dominantes comme le catholicisme ou l'orthodoxie mettent ça en pratique, redresser avec douceur les adversaires. On aurait aimé aussi que le protestantisme, lorsqu'il a eu la chance d'avoir le pouvoir, de faire de même, sans persécuter, sans imposer à certaines personnes leurs convictions. Donc on a eu 18 siècles de persécution féroce, essentiellement, et il y a des témoignages écrits de ces persécutions féroces. Cet ouvrage, qui est épais comme ça, Mother's Mirror, est un livre qui raconte des choses absolument énormes de persécution que les chrétiens ont subi au fil des siècles. Il y a un deuxième ouvrage qui s'appelle Book of Martyrs, donc c'est en anglais, de John Fox, et celui-ci va jusque 1800, si je me souviens bien, celui-ci s'arrête à la Réforme. C'est deux livres incontournables. Néanmoins, il n'existe pas en français. Il n'existe qu'en anglais. Je vous encourage, quel que soit votre âge, et si vous avez des enfants ou des petits-enfants, à encourager les vôtres à apprendre l'anglais pour pouvoir lire des choses comme ça, avoir ce genre de référence. Parce qu'autrement, ça passe dans les oubliettes et on oublie que pendant 18 siècles, les chrétiens qui ont aimé la parole de Dieu au point de la respecter, au point de chercher à être fidèles, au point de dénoncer les errances, les propos et les décisions non scripturaires ont été persécutés. Et ici, il y a beaucoup de ces persécutions qui sont décrites. Et si on n'a pas accès, si on ne peut pas les lire, si on ne connaît pas ces choses, on va oublier et on risque de reproduire les erreurs du passé. La chrétienté moderne, j'ai bientôt fini pour aujourd'hui.
Est-ce que je veux dire juste une chose?
Oui.
Pendant plus de 100 ans, si une église, si une famille protestante ou baptiste n'avait que trois livres dans la maison, c'était la Bible, c'était Jean Bunyan, et pas du tout dans la meilleure maison.
Oui. Trois livres incontournables. Malheureusement, on a beaucoup, même dans les pays anglophones aujourd'hui, on a perdu beaucoup la connaissance familière de ces livres. On est submergé souvent par les médias, par les livres, par les vidéos, par ceci, par cela, et on perd souvent ses racines, la compréhension de l'histoire de la chrétienté. Au passage, je vous dirais que, en introduisant la dernière partie avec les évangéliques ici, cette présentation que je vous fais de l'histoire de la chrétienté, que je soumets à votre appréciation, que je ne vous impose pas, elle était connue dans le monde anglophone jusqu'en 1900. À partir de 1900, on n'a plus parlé, de moins en moins, de ces personnes-là, et dans la plupart des livres d'histoire de l'Église ou de la chrétienté, aujourd'hui, on parle par exemple des baptistes et des anabaptistes comme étant issus des églises protestantes. Or, nous allons développer ça demain, on va finir d'ailleurs là-dessus aujourd'hui, il y a une continuité assez claire, biblique, et une prise de position vraiment très similaire pour toutes ces personnes ici, qui est vraiment différente du protestantisme. Même si le protestantisme a mis à l'honneur la parole de Dieu, mais a gardé un certain nombre de choses non négligeables du catholicisme. Alors la chrétienté moderne, aujourd'hui, eh bien il ne restait plus qu'à introduire, à partir de des années 1800, ce que j'appelais la mission internationale, c'est l'avènement des évangéliques, surtout, bon, quelques-uns dans les années 1800, mais la plupart c'est au tournant du siècle suivant, donc au démarrage de 1900, toutes les dénominations évangéliques qui sont extrêmement nombreuses, qui ont apparu là. Et il y a eu quelques persécutions, il y a des persécutions vis-à-vis des évangéliques, encore une fois issues du protestantisme, mais ces persécutions sont moindres par rapport à tous les prédécesseurs. Cette chrétienté d'aujourd'hui, si vous la regardez ici, elle est en train de changer depuis quelques décennies. Elle est influencée de plus en plus. La presse, les médias, Internet favorisent ces influences. Et la chrétienté d'aujourd'hui, elle change à ce niveau-là. Regardez, il y a un changement de couleur ici. Depuis plusieurs, peut-être deux, trois décennies, les évangéliques, les anabaptistes et les baptistes sont de plus en plus intéressés par la théologie protestante. Et de moins en moins connaissent leur histoire. Qui étaient leurs prédécesseurs? Qui a pris position pour la parole de Dieu de la même façon qu'eux? Et ça, c'est, ça montre que aucun mouvement n'est à l'abri d'influences extérieures, extérieures à la parole de Dieu, s'entend, et se tourne vers d'autres enseignements, d'autres personnes. Alors aujourd'hui, si vous demandez à des spécialistes catholiques comment est-ce qu'ils voient l'histoire de la chrétienté, ben comme je vous ai dit précédemment à la sortie du Moyen-Âge, ben ils se voient comme les successeurs des apôtres, les pères de l'Église, voilà, c'est eux les meilleurs. Ils appellent les orthodoxes aujourd'hui, se sont un peu réconciliés avec eux ces dernières années, ils les appellent les frères séparés. Quant aux protestants, et de temps en temps ils les appellent frères, et vous savez que ce sont les protestants qui ont initié, à la fin des années 1800, l'œcuménisme, les mouvements œcuméniques, les réunions œcuméniques. Et donc, de temps en temps, les catholiques appellent les protestants des frères. Les évangéliques, eux, ont pris l'adjectif de protestant, s'appelle souvent et de plus en plus protestant aussi. Tant et si bien que on ne sait pas exactement, il y a forcément des églises évangéliques qui tendent à aller plutôt dans le sens, ou même des membres, disons, à aller plutôt dans le sens des positions anabaptistes et baptistes, alors qu'il y en a d'autres qui tendent à aller plutôt vers les églises protestantes. C'est un petit peu du coup par coup. Hein. Et c'est une tendance que l'on voit apparaître. De toute évidence, pour le catholicisme, tous ces gens sont des hérétiques. Et la propagation de cette vision catholique, c'est pas difficile, c'est des encyclopédies. En France, en tout cas, et ce sont des encyclopédies françaises, vous lisez et vous allez avoir une perspective catholique des faits historiques que je vous ai présentés et dont vous connaissez pas mal de choses. La télévision est aussi essentiellement, même si elle est beaucoup anti-Dieu, elle propage essentiellement une vision catholique de l'histoire. De la chrétienté. La presse et les livres. Si vous allez à FNAC, par exemple, vous allez trouver 2000 ans d'histoire de l'Église. Ils ne vont pas vous dire d'un point de vue catholique, mais c'est ça. C'est pas autre chose. Vous avez un livre sur l'histoire des hérésies, mais au sens catholique du terme. Donc, en fait, tous les groupes qu'on a vus vont être analysés, mais d'une perspective catholique. Si maintenant vous demandez aux protestants comment est-ce qu'ils voient l'histoire de la chrétienté, eh bien eux se voient les dignes successeurs des apôtres, des pères de l'Église, avec un retour aux Écritures, donc c'est eux qui auraient la sainte doctrine, peut-être les protestants évangéliques, et de toute façon, s'ils ne le disent pas de façon très claire, et ils le pensent, tous ces gens c'était plutôt des hérétiques. Même donc vu par le protestantisme. Quant à la vision protestante, eh bien, en France, elle est faite dans les lieux comme les musées, comme ça, c'est le musée Jean Calvin à Noyon, au nord de Paris. Ça, c'est le mur des réformateurs à Genève. Ça, c'est un musée protestant qui est à Orthès, près de Pau, pas très loin de Bordeaux. Les livres protestants, vous connaissez peut-être le précis d'histoire de l'église de Jules Marcel Nicole, qui est utilisé beaucoup parmi les évangéliques, qui est pas mal, mais on sent une interprétation toute protestante et une sympathie même quelquefois pour le catholicisme persécuteur, parce que Jules Marcel Nicole ici avait beaucoup et a toujours beaucoup d'amis dans le catholicisme et faisant des conférences avec eux. Quant à la propagation de la vision des persécutés, eh bien, il y a la Bible, le livre des Actes, les 28 chapitres du livre des Actes, jusqu'en l'an 64 à peu près, 63-64. Et vous, quelle est votre vision et quelle est votre compréhension de l'histoire de la chrétienté et quelle vision de l'histoire de la chrétienté propagez-vous? Le Seigneur Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre et trouvera-t-il la vérité en même temps? Les baptistes aujourd'hui, et j'ai presque terminé, on pourrait dire qu'ils ont deux classes de doctrine. On rentre un petit peu dans l'aspect baptiste, et quand je dis baptiste aujourd'hui, c'est un peu aussi les évangéliques, parce que parfois il y a très peu de différence entre certains évangéliques et les baptistes, ou même certaines assemblées qui sont des assemblées de frères, mis à part le fait qu'ils généralement n'ont pas de pasteur, les croyances sont relativement, les pratiques sont relativement similaires. Ça varie bien sûr d'une assemblée à l'autre. Deux classes de doctrines bibliques, ce que j'appellerais les doctrines communes, et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis des guillemets à communes, et ce que j'appelle les doctrines distinctives. Les doctrines communes, quelles sont-elles? C'est ce qu'on appelle, d'une façon générale, la théologie, et la théologie systématique. C'est ce que nous dit la parole de Dieu sur Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sur l'homme, sur le péché, sur les anges, etc. Et donc, les doctrines communes, on pourrait dire, entre guillemets, puisque tout le monde n'a pas les mêmes opinions sur ces sujets, ça couvre la Bible, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, l'homme et le péché, les anges et Satan, le salut, l'Église, les choses dernières. Ce sont les grands chapitres de ce qu'on pourrait appeler la théologie systématique. C'est organiser d'une façon, comment dirais-je, systématique, ces sujets de théologie tels que l'on les comprend à la lecture de la parole de Dieu. C'est tiré de la parole de Dieu. Bon. Les catholiques font ça aussi, les protestants aussi, mais ils ne mettent pas exactement les mêmes choses dans chacun de ces chapitres. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai dit, ce sont des doctrines communes. Nous parlons tous de la Bible, de Jésus, l'homme du péché et du salut, mais on ne dit pas exactement la même chose. C'est bien clair, hein? Il y a aussi d'autres doctrines, des doctrines distinctives. Et c'est ce que je voulais vous présenter, que je vais développer demain. Je vais terminer avec un tableau ici. Deux tableaux plus exactement. Les doctrines bibliques qui distinguent les baptistes et certains évangéliques qui ont ces mêmes doctrines, même peut-être une fois sans trop le savoir, sont les suivantes. L'autorité de la parole de Dieu, l'autorité de la Bible. Ça, c'est un distinctif clair. Les catholiques, ils vont dire, mais moi je crois à l'autorité de la parole de Dieu. Oui, mais plus les traditions, plus l'infaillibilité du pape. Les protestants vont dire, nous on croit à l'autorité de la Bible. Mais ils rajoutent aussi l'institution chrétienne de Jean Calvin en France, par exemple, où ils rajoutent le credo, les différents credos, que ce soit luthérien, ou que ce soit réformé, ou ceci, ou cela. Le deuxième distinctif biblique des baptistes, c'est l'autonomie de l'Église locale. L'Église locale est autonome, elle ne dépend de personne, elle prend ses décisions elle-même dans la congrégation. Ce n'est pas le pasteur qui décide, le pasteur explique, propose, enseigne, mais c'est la congrégation, l'assemblée tout entière, qui vote, qui décide. Donc il y a une autonomie complète de l'Église locale. Ensuite, il y a le sacerdoce de tous les croyants. On développera ça demain, mais nous savons, dans l'épître de la deuxième épître de Pierre, que le Seigneur Jésus nous a donné un sacerdoce royal. Nous sommes des prêtres, et notre fonction est être des ambassadeurs pour Dieu sur la terre, et de louer Dieu directement par Jésus-Christ. On a un accès direct par Jésus-Christ à Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle le sacerdoce de tous les croyants. C'est pas le pasteur, c'est tous les croyants dans une assemblée baptiste ou évangélique qui a ses convictions. Deux ordonnances, le baptême et la scène. Pas deux sacrements, mais simplement deux ordonnances, deux choses qui ont été ordonnées par le Seigneur Jésus de faire. Ensuite, la liberté de conscience. Baptiste, anabaptiste et beaucoup d'évangéliques ont ces distinctifs de dire que nous avons donné par Dieu cette liberté de conscience et nous faisons, nous croyons comme nous voulons. Nous avons ce droit qui a été donné et c'est un droit d'ailleurs qui apparaît dans la Déclaration des droits de l'homme, au passage, qui a été proposé par les protestants. Membre sauvé et baptisé, il s'agit de dire que on accepte comme membre d'église que quelqu'un qui est sauvé, qui a donné une confession de foi crédible et publique, et qui est passé par les eaux du baptême, après son salut. Ensuite, deux offices, celui de pasteur, la fonction de pasteur, la fonction de diacre, choisi par les membres de l'église, et confirmé dans cette position, dans ces fonctions par les membres de l'église, et pas par une autorité extérieure. Et ça confirme ce qui c'est en accord avec ce qu'on lit en 1 Timothée chapitre 3. Et puis, le dernier point, c'est la séparation de l'église de l'État. Surtout ces distinctifs, c'est ce qu'on appelle les distinctifs bibliques des baptistes, qui sont abondamment inconnus dans une liste telle que celle-ci dans les pays occidentaux, sauf aux États-Unis. Pendant deux siècles aux États-Unis, pratiquement deux siècles, ces choses étaient enseignées et connues de toutes les églises baptistes. Si vous êtes anglophone ou si vous lisez l'anglais, vous avez certainement remarqué que sur la gauche ici, j'ai la traduction en anglais ce terme. Et si vous regardez la première lettre de chacune des expressions, vous avez le mot baptiste au pluriel, baptiste au pluriel, qui donne un acronyme et qui est un moyen mnémotechnique pour se souvenir de ces distinctifs bibliques des baptistes. J'ai presque terminé. Je terminerai par cette diapositive en disant, c'est quand même étonnant. Il y a une ressemblance saisissante dans ces distinctifs bibliques des baptistes avec les montanistes, les novatiens, les donatistes, avec ce qu'on croyait les policiers et défendait les policiers, les bogomis, les cathares, les vaudois et les anabaptistes. En fait, ce que l'on voit ici, et on est arrivé quasiment au terme de ce que je voulais vous montrer, c'est que ces distinctifs bibliques des baptistes qui sont dans le monde anglo-saxon, qui étaient extrêmement connus et par tous les membres d'église, ne sont rien d'autre que l'aboutissement de 18 siècles de persécution et de résistance de chrétiens, avec leurs différences et leurs erreurs, qui ont défendu l'autorité de la parole de Dieu et qui ont choisi plutôt mourir que renier leur Seigneur, leur Sauveur et la parole du Seigneur. Au fil des siècles et au fil des ajouts non structuraires du catholicisme, ces distinctifs bibliques se sont développés. Et les montanistes, les donatistes et les novatiens ont développé un certain nombre de ces distinctifs. Leurs successeurs au Moyen-Âge, comme les Pauliciens, les Bogomiles, les Cathares, etc., en ont développé d'autres. Et les anabaptistes et les baptistes ont terminé la chose. Et en fait, les baptistes n'ont fait que rassembler tout cela. Et c'est l'expérience de 18 siècles de persécution qui a permis ceci. Je vous encourage à garder cette liste en tête.